RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG en direct de Marseille, en direct de la terrasse du Mucem, RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024. Avec aujourd'hui l'agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud, Joël Dagosséry qui est coach de vie. Nous sommes avec le patron de PME, Mehdi Guézard. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi. Tout à l'heure, nous serons rejoints par la secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté. C'est Sabrina Agresti-Roubache qui sera avec nous. C'est la régionale de l'étape aussi, Sabrina Agresti-Roubache. Avec elle, on va mesurer de quelle manière aussi l'ensemble des villes de France, des quartiers, des lieux populaires vont s'impliquer dans Paris 2024. Parce que si on se fie au sondage, on voit bien que quand même c'est l'enthousiasme. Pour le moment, on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de gagner le pays. Donc on en parlera avec Sabrina Agresti-Roubache tout à l'heure. Elle sera avec nous, on saura. Mais pour le moment, il a décidé de jouer un peu les prolongations avec nous. Redouane Bougueraba, l'humoriste marseillais, qui va porter la flamme demain.
Oui, il fait partie des personnalités marseillaises retenues pour porter cette flamme, qui, rappelons-le, arrive tout à l'heure vers 19h dans le port de Marseille. C'est Florent Manoudou qui sera le premier à porter cette flamme. Ensuite, il y a l'invité mystère, on ne sait pas trop qui, Zizou, selon Mehdi Guézard.
ZZ. C'est l'invité mystère.
Pour allumer le chaudron olympique, mais il y a plein de personnalités, dont Redouane. Mais Redouane, il a 4 gros rendez-vous dans cette année 2024, et notamment le Vélodrome en juin.
Oui, à Marseille.
Comment on remplit le Vélodrome quand on est un humoriste? Parce que le Vélodrome, c'est souvent des gros shows.
Des rappeurs, des choses comme ça, des artistes.
Voilà, seul sur scène.
Je suis seul sur scène, bah après, il va y avoir des surprises.
Il faut être bon, quoi.
Exactement, on n'a communiqué sur aucun artiste. Donc le seul artiste sur lequel on a communiqué, c'est sur moi. Il va y avoir des surprises. C'est pas pour décevoir les gens, annoncer qu'il va y avoir Beyoncé et qu'elle ne vient pas. C'est Aya dès qu'elle pourra. Mais voilà, c'est un show inédit avec beaucoup d'énergie et c'est une première. Ça va être un show en scène centrale, c'est-à-dire que pour justement casser le fait qu'on soit loin. Ça va être pas en fond de scène, mais on va être au milieu, un peu comme le Super Bowl aux États-Unis avec des écrans géants. Donc voilà.
Combien de personnes autour ?
Là, pour le moment, il y a 30 000, mais on vise 45 000. Donc ça fait beaucoup.
Mais moi, je voudrais revenir sur le parcours.
Ça double.
Parce que toute est partie des réseaux sociaux, des rendez-vous qui étaient donnés aux internautes.
C'est ça.
C'était plusieurs jours dans la semaine. Et ça finit au Vélodrome.
C'est magnifique. Moi, je pensais finir à l'Olympia avec les lettres en rouge. Et ça s'est fini au Stade Vélodrome, c'est exceptionnel. Entre, on a fait 10 palais des sports, là à Paris, on fait 2 Bercy.
Parce qu'aujourd'hui, forcément, tout doit démarrer sur les réseaux sociaux si on veut ensuite remplir des
Non, moi j'ai démarré par les petites salles. Ouais, c'est les petites salles, mais les gens.
C'est
60 personnes. J'ai démarré 60 personnes, des petites salles. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de sacrifices. Gad Elmaleh a dit une très très belle phrase. Il a dit, si vous pensez qu'il suffit de parler au public pour avoir le succès de Redouane Bougueraba, c'est comme si vous preniez la raquette de Nadal et espérez gagner Roland Garros. C'est exactement la même chose. C'est des années, comme disait Coluche, il faut toute une vie pour être connu du jour au lendemain. J'ai pas démarré hier, ça fait des années que je fais aller-retour.
Il y a eu des galères aussi. Il est parti à Londres, je le suis depuis longtemps. Franchement,
pourquoi tu l'as raconté alors? Pourquoi tu l'as fait rire? Tu l'as découvert? Qu'est-ce que t'aimes chez lui?
Moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa répartie, c'est comment il casse des.
C'est ça, il fait rire quand il parle pas de toi, quoi.
Non, quand il clash, quand il casse, et c'est sa répartie, et aussi c'est sa proximité avec le public. Moi, je pense que Redouane Bougueraba, c'est un mec où il a été connu. Est reconnu par rapport à sa proximité au public. Il fait énormément d'impro et c'est ça qui est génial chez ce mec-là. C'est que il y a des artistes qui sont, enfin des humoristes qui préparent. On voit qu'il y a de la prépa, mais on voit qu'il y a aussi une grande part d'improvisation.
Combien alors? C'est quoi là?
Je sais pas, ça c'est lui. Mais en tout cas, moi je rigole de ça.
Ça dépend de la forme, ça peut aller de 15 minutes à 35 minutes.
Voilà. Et tu rigoles, tu sais, sur 1h30, 2h de spectacle, mais t'es mort de rire parce que tu peux être. Je vous le dis, tu peux être musulman, juif, chrétien, chinois, bouddhiste, américain, mexicain, français, algérien, tout ce que tu veux. Il te fracasse, mais toujours dans le respect, dans le truc. Et en fait, C'est ce truc un peu cosmopolitain, c'est truc qui fait kiffer les gens et qui fait rire les gens. Après,
on peut se moquer de tout le monde sans problème.
On peut se moquer de tout le monde, mais il y a toujours des limites.
C'est la façon de le faire aussi.
Mais oui, c'est on l'accepte quand c'est bien fait. Voilà. À partir du moment où c'est mal fait et qu'il y a un manque de respect et qu'on dépasse la limite, exactement. Les gens reviennent, demandent. C'est les premières places qui partent, c'est les places au premier rang. Il y en a plus. Les gens sont contents de revenir. Non, mais c'est pas du sadomasochisme. C'est que les gens, ils ont besoin de décompresser, de rire. On est dans des temps très difficiles avec des guerres, avec des crises, et les gens ont besoin de décompresser et c'est ce qu'on essaie de leur offrir.
Et l'une des premières questions qu'ils posent, excuse-moi hein, Didier, l'une des premières questions qu'ils posent à ces spectateurs, c'est quel métier vous faites ? Mais tu as de tout. Et le mec, il s'est même tapé des
on a des patrons de PMU à PME.
Et des inspecteurs des finances publiques. Une fois, il y a une nana des impôts.
Des impôts.
Et tu vois, t'as vraiment de tout. T'as le mec, c'est un VTC. T'as l'autre, c'est un patron de PME. T'as l'autre, c'est un livreur.
J'ai eu éleveur de chevaux.
Voilà, il a vraiment de... Et tu, en fait, il, c'est ça. C'est, je pense que c'est ça qui est bien.
Mais c'est beau, mais de chevaux de compétition. Donc
aujourd'hui, t'as l'éleveur de bœuf. Moi, j'avais une question par rapport... Tu penses quoi des artistes qui se font dégager de la radio, parce qu'il y en a eu un il y a pas longtemps.
Guillaume Meurice.
Ouais, Guillaume Meurice, parce qu'ils vont trop loin dans leur humour. Est-ce que tu penses que c'est du coup mal fait, ou est-ce que c'est normal qu'ils se fassent dégager de l'antenne, ou est-ce qu'on a plus le droit de rien dire?
Je pense qu'on devrait pas virer les gens par rapport
à leurs blagues.
C'est sous le couvert d'humour, et je pense qu'il y a une liberté d'expression et il faut pas virer les gens pour ça. On sait très bien que la personne que vous avez engagée, elle va faire des blagues. Oui. Et on sait que c'est des blagues.
Payé pour ça.
C'est un billet d'humour.
Elle est payée
c'est
pour
pas, ça. Okay. Il n'est pas arrivé pour faire de la politique. Maintenant, s'il est au Sénat, dans un cadre politique, là, qu'il se fasse dégager, ok, parce qu'il a dépassé les limites. Mais là, il est à la radio. On sait que c'est un humoriste.
C'est la liberté d'expression. Exactement. À géométrie variable.
Variable, c'est ça.
Merci Redouane.
Merci les Men in Black. J'étais vraiment content de vous.
Men in Blue. On n'a pas l'habitude. On vient de Paris. Tout
le soleil.
Allez, merci.
Il va rentrer. Violet, parce qu'il est en train de se rosifier en temps réel. Il faut une crème anti-UV, parce que là, j'ai peur pour lui. Hein.
Je vais mettre la casquette.
Ça peut les grands gueules, ça te les grands brûlés.
Les GG continuent de discuter des Jeux Olympiques. Et on va accueillir notamment Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État en charge de la ville. Mais c'est sympa d'avoir Redon, parce que en fait, pour ceux qui ne savent pas, il suffit de regarder les chiffres. Moi, j'ai été épaté quand on a préparé. Il est très pas populaire. Trop sur les réseaux sociaux, je le connais, j'ai déjà entendu, effectivement, c'est un chambre. 700 millions de vues, les vidéos. Ouais. Aujourd'hui, ce sont des vrais phénomènes qui passent par les réseaux sociaux, par, comme tu le disais, par Instagram. Je regardais le nombre de gens qui le suivent sur Instagram aussi. 1,7 million.
Oui, mais ce qui est intéressant, ce qui rappelle quand même que le métier, ça s'apprend aussi sur scène.
Ouais.
Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en faisant des vannes sur Instagram, tu vas terminer au Vélodrome. Ouais. Il a fait de la scène. Comme Yannick Mallet et toute la bande, ils ont tous appris leur métier petit à petit.
Il a travaillé.
Pas du jour au lendemain.
Puis c'est pas de l'inné, c'est de l'acquis.
Alors, il y a quelqu'un qui est en ligne avec nous là.
Ah.
C'est David Douillet qui est en ligne avec.
Il n'est pas encore à Marseille.
Avec les GG. Bonjour David.
Bonjour. David,
double champion olympique.
Mais dis-moi David, t'étais parti à quelle heure là? Parce qu'on t'attend à Marseille.
Je suis parti à 6h30 et malheureusement, beaucoup de gens font le pont. Ça a été une catastrophe au sud de Lyon jusqu'à la jonction pour aller sur Montpellier. Il y a eu des bouchons monstrueux. Mais bon, là je suis en bonne voie là.
En bonne voie pour arriver demain normalement alors, c'est ça.
Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu.
Non, je disais c'était une vanne, je disais pour arriver demain. Mais David, l'important c'est d'être présent à la fête. Ici à Marseille, le double champion olympique que tu es, comment il va vivre cette arrivée de la flamme alors?
C'est un petit peu le démarrage des Jeux en fait. Hein. La flamme arrive en France. Elle sera portée par Florent Manodou, qui va lui concourir cet été. Donc c'est un petit peu le voilà, ça y est, on y est maintenant. reste plus que ce parcours dans tout l'Hexagone, où en fait elle va annoncer attention, ça va démarrer, attention, ça va démarrer. C'est pour moi, c'est déjà une préouverture des Jeux Olympiques.
David, dans un récent sondage publié sur BFM TV, une majorité de Français exprime une certaine indifférence. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que parce qu'on est encore à deux mois des Jeux, est-ce que ça va monter en puissance ? Comment faire que, en sorte que tous les Français s'emparent de l'événement ?
Bah justement, c'est un peu le rôle de la flamme que de dire, voilà, avec toutes les manifestations qui vont se dérouler et qui vont démarrer là maintenant à Marseille, qui ont déjà démarré hier soir d'ailleurs, l'engouement, l'information et puis la pression va commencer à arriver. Quelquefois, l'actualité, la conjoncture fait que les Français, et c'est bien normal, sont préoccupés par d'autres problèmes. Et là, l'été va arriver avec la fête mondiale. On va devenir le centre du monde pendant une période avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et ça, les gens vont en prendre conscience au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler à partir d'aujourd'hui.
En fait, il va falloir arrêter de râler, notamment pour les Parisiens et autres, en disant c'est la pagaille, ça va pas être prêt, pour passer à une phase un peu plus enthousiaste. Quoi. Ça, c'est peut-être plus le rôle des athlètes, des médaillés et autres, David.
Ouais, exactement. En fait, on a parlé que des choses qui fâchent. Moi, je dirais, enfin, sans choquer personne, on s'est focalisé sur des petits détails qui vont faire que il va y avoir quelques inconvénients. Mais quand on accueille la plus grande scène de spectacle du monde pendant plus d'un mois, eh ben, bien sûr qu'il y a des petits soucis collatéraux. Mais cette fête-là, elle va booster pendant plus de 30 ans, 40 ans, peut-être plus, la culture du sport, l'envie de faire du sport dans notre pays. Et ça, c'est indéniablement une plus-value par rapport aux gens aujourd'hui, à leurs enfants et à leurs petits-enfants qui vont profiter de tout ce que le sport peut apporter à un individu. Et ça, les gens ne s'en rendent pas bien compte. C'est à nous de le dire et de l'expliquer. Qu'un jour, en poussant la porte d'une association sportive, qu'on soit champion ou pas, et ben, ça vous change la vie.
Didier Giraud.
Ouais, du coup, moi, je m'interroge, David, sur le fait que on soit prêt derrière à accueillir tous ces enfants dans les associations sportives locales, on va dire, parce que, enfin, moi qui suis un enfant du rugby et je vois comment c'est compliqué aujourd'hui dans les petits clubs pour boucler les budgets, pour avoir des bénévoles, des éducateurs formés, et je me dis, qu'est-ce que sera le ruissellement derrière ces jeux dans les assos sportives ? Est-ce qu'on sera capable d'absorber un flux ou pas, quoi ?
Bien sûr, ça, je suis entièrement d'accord. L'anticipation par rapport à l'engouement, il n'est pas suffisant. Mais par contre, il faut pas baisser le pavillon tout de suite. Les choses doivent être prises en relais justement après les Jeux, même si on n'est pas, à mon avis, suffisamment préparé pour absorber cette vague qui, j'espère, arrivera dans notre pays grâce aux Jeux. Tout va se mettre en marche. L'État, en premier lieu, va se mettre en marche. Les collectivités locales, les départements, les régions, ça va aller jusqu'aux comités départementaux dans les plus fines capillarités, à travers les clubs aussi, puis à travers aussi un tissu en particulier, je fonde beaucoup d'espoir là-dessus, un tissu d'entreprises, de sociétés qui auront à cœur, à travers notamment leur politique RSE au sein de leur activité, eh bien, de mettre en place et d'avoir compris que sociétalement parlant, le sport peut booster des générations, peut les construire, peut les édifier et faire en sorte que une société s'apaise grâce à tout ça. Voilà. Donc, je suis très optimiste par rapport à ça et j'espère que cette magie va opérer.
Merci David Douillet, à tout à l'heure donc en direct de Marseille. Madame la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache,
bonjour,
est en train de s'asseoir, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. On va parler de cette fête, savoir comment elle va être vécue ici à Marseille avec vous qui êtes la régionale de l'étape. Sabrina Agresti-Roubache avec nous dans un instant en direct sur RMC dans les GG, dans les Grandes Gueules.
RMC, 9h30, les Grandes Gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG en direct de Marseille, les GG sur RMC, la radio, RMC Story et la télé. Mehdi Guézard, le patron de PME, nous a accompagnés avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, avec Joël Dagosseri, coach de vie. On est face à la Méditerranée, dans l'attente de l'arrivée du Belém. La flamme arrivera en fin d'après-midi, début de soirée, avec l'allumage, bien sûr, de la vasque.
Le Belém est au large, hein. On l'a vu oui, tout à l'heure.
Oui, on le voit. On l'a aperçu alors,
à l'horizon.
Il bouge un peu, comme on dit, il fait des ronds dans l'eau en attendant l'événement. La cérémonie, bien sûr. On va accueillir notre invité.
RMC, les Grandes Gueules.
On l'a déjà salué, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. S'il y a bien la régionale de l'étape, c'est bien Madame Agresti-Roubache.
Ben oui. La Marseillaise de l'État.
On est fiers là. Tous les Marseillais sont fiers d'accueillir la flamme. Vous êtes fiers d'accueillir la flamme.
Moi, à titre personnel, en tant que Marseillaise, très fière. En tant que ministre, encore plus fière. Et les Marseillais, évidemment. Vous savez, les Marseillais ont toujours été au rendez-vous de l'histoire. On a beaucoup de défauts, mais on est toujours au rendez-vous de l'histoire. On l'a été à la Coupe du Monde 98, pour ce qui est plus récent pour moi, de ma génération, et sur Marseille, capitale de la culture. On l'a été, et là, avec la flamme qui arrive à Marseille, accueillie par le président de la République, le plus marseillais de la 5e, donc on ne peut que être fiers.
Pourquoi il adore autant Marseille? Vous avez discuté avec Emmanuel Macron de sa passion pour Marseille?
Oui, je l'avais expliqué une fois. Je pense que le caractère, le tempérament, le potentiel de la ville. La jeunesse, on a quand même plus de 50% de la population qui a moins de 18 ans, enfin, on a des atouts, mais le tempérament de la ville.
Oui, mais vous avez des atouts, mais dernièrement dans l'actualité, Sabrina Agresti-Roubache, on a parlé d'une ville qui est gangrénée par la drogue, parlait même d'une narcoville, on parle de ces règlements de compte avec des jeunes de plus en plus jeunes qui tombent sous les balles, donc c'est ça aussi Marseille, Marseille c'était surtout ça.
Alors Olivier, vous parlez à une ministre qui est née dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe, donc ça première chose, donc j'ai grandi dans le quartier de la French Connection, donc pas loin de la Belle de Mai, dans le 3e. Ce qu'on a fait récemment, j'ai écouté moi beaucoup de commentaires qui venaient depuis Paris, et je suis toujours frappée par tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Non, quand tu vas exploser un point de deal, ça sert pas à rien. Tu changes la vie des gens, les fameuses places nettes XXL, exactement, du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin. Regardez à la paternelle, il y a eu un très bon article la dernière fois du Figaro qui expliquait qu'ils sont allés voir les gens, il faut parler avec les habitants pour comprendre. Et quand les points de deal sont supprimés, je rappelle trois chiffres à Marseille, c'est très important, plus de 70 points de deal supprimés en 2 ans, c'est pas rien. Sur ces opérations, hier, j'étais en Allemagne, à Hambourg, à une grande réunion sur justement la lutte contre la criminalité, et j'annonçais des chiffres. 3800 personnes arrêtées, 20 millions d'euros de cash saisis, 4 tonnes de drogue saisies. Enfin, ça veut dire quelque chose. Donc, je refuse qu'on nous traite ou qu'on nous qualifie de narcoville. Mais rappelez-vous, j'avais été la première à dire, pas de consommateurs, pas de dealers. Qui vient acheter sa drogue dans nos quartiers populaires, vous pensez? Ceux qui ont les moyens de se payer de la drogue. Oui. Moi, jusque-là, j'ai pas
tout encore. Tout le monde, parce qu'on a l'impression beaucoup. Que le cannabis est partout
millions,
maintenant.
5 millions de consommateurs.
Il n'y a pas que des cadres qui
fument. Non, bien sûr que non. Ouais. Mais évidemment.
Non, mais tout le monde, il y a des jeunes, des moins jeunes.
Ça concerne tout le monde. 5 millions de consommateurs. Et j'avais pas fini le reste de mon explication. J'avais dit aussi, mais ça avait moins intéressé, c'était moins cash. Je disais, mais consommer de la drogue, en fait, c'est une addiction. Donc, maintenant que j'ai la charge, justement, de la prévention de la délinquance, j'ai mis en numéro 1 la lutte contre les conduites addictives, la lutte contre les conduites à risque, et j'ai mis la santé mentale. Parce que je pense que de continuer à dire juste la légalisation serait le fameux, la potion magique pour en venir à bout, aller voir ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé. Je vous dis, je reviens de cette réunion où je représentais le ministre de l'Intérieur. Donc non, ma ville, c'est pas ça. Notre ville, c'est pas
vous
que ça.
Vous ne croyez pas du tout à la légalisation du cannabis?
Pas tant que... Alors, je vais vous dire une chose. Tant que vous aurez des réseaux criminels de trafiquants surarmés surarmée et surarmée financièrement. Vous n'y arriverez pas, on n'y arrivera pas. Il faut bien démarrer quelque part. Moi, ce en quoi je crois, c'est que tant qu'on continuera à leur mener la vie dure, hier, je le disais, il faut être intraitable. Intraitable parce que, vous savez, on essaye toujours de fantasmer. Pareil, vous savez, la voyoucratie à Marseille, elle a été fantasmée. Mais ce sont des gens quand même qui n'ont ni foi ni loi, qui tueraient père et mère et rappeler ce qu'ils sont et tout le mal qu'ils provoquent. Une famille qui est touchée par la drogue, que ce soit, vous dites règlement de compte, moi je dis assassinat. J'y plus règlement de compte, parce qu'on a des jeunes et des enfants qui meurent, de plus en plus jeunes. En revanche, est-ce que tout est fini? Non, parce que je travaille par exemple avec le collectif d'une amie d'enfance, à moi, Aïcha, qui a perdu son fils. Ça a été le premier règlement de compte filmé qui a tourné sur les réseaux sociaux, il avait 21 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait, Aïcha? Vous croyez qu'elle a baissé les bras? Elle a monté un collectif et on travaille ensemble, justement, sur la prévention et l'accompagnement des victimes.
Je peux vous poser une question. Je vais vous poser une question personnelle.
Oui.
Très personnelle. Vous voyez si vous y répondez ou pas. Quand on a grandi, en général, dans ces quartiers, on a forcément autour de soi quelqu'un qui a été touché ou qui est dans la drogue. Est-ce que ça vous est arrivé, vous?
Évidemment que oui. J'ai perdu... Enfin, je vous montre ma photo de classe. La moitié de mes amis d'enfance, où ils sont morts, où ils sont en prison. Enfin, c'est ça, c'est la réalité. Quand tu es né à Félix Fiat, enfin, je rappelle juste que c'est Félix Fiat, une cité dans laquelle on a été très heureux. J'ai été très heureux, je le disais, dans mon, j'ai eu une enfance magnifique, mais parce que j'avais des parents, j'ai reçu une éducation, j'ai eu la chance. Mais c'est ça la réalité.
Ça, c'est votre
qui a changé par rapport à ça. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous expliquez justement autour de vous, puisque vous avez dit, voilà, quand je regarde ma photo de classe, il y en a plein qui sont en prison ou morts.
Ouais.
Comment ils sont tombés là-dedans? Pourquoi ils sont tombés là-dedans et pourquoi? Alors vous parlez de vos parents, donc ça veut dire que eux, les parents n'étaient pas là, c'était déstructuré.
Pas que. En fait, si on minimise le sujet à ce sujet, enfin, on n'y arrivera pas. C'est pas ça. La réalité, c'est que ils ont fait le choix du mauvais côté de la barrière. Et je l'ai toujours dit, il y a un bon côté, un mauvais côté. Ils ont choisi le mauvais côté de la barrière.
Donc c'est des choix personnels.
À
un moment donné, il y a une responsabilité individuelle.
Exactement, je parle de responsabilité. Vous savez, moi je côtoie, dans mes amis d'enfance, il y avait des parents formidables. Et dans la même famille, vous avez des minots qui tournent bien et des minots qui tournent mal. Allez l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que la cellule familiale, en tout cas que j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, l'éducation et l'instruction, l'école. Moi j'ai rencontré des profs formidables. Et je suis allée dans les écoles qui maintenant font partie justement du Marseille en grand en termes de rénovation et de restructuration totale. Mais la réalité, c'est que je crois quand même que de toujours dire que tout est foutu, c'est terrible pour moi. Pas foutu.
Vous avez répondu, je vous remercie. Attendez, pause, parce qu'on a quelqu'un, on a Julien Richard qui est sur le BLM.
Ah.
En direct pour RMC, journaliste RMC, Julien Richard du service des sports sur le BLM.
C'est pas tout seul,
Bien évidemment. comment ça se passe sur ce magnifique voilier, Julien, alors?
Alors, je viens juste de monter à bord. Ce sont des images assez impressionnantes. Alors déjà, il y a un grand ciel bleu, ça vous aura pas échappé. Et tout autour du bateau, il y a une nuée de bateaux suiveurs, ces 1024 bateaux qui vont accompagner le BLM jusque dans le Vieux-Port sur cette parade, rade nord, rade sud, pour arriver à 19h dans le Vieux-Port. Donc c'est très très impressionnant. Il y a un bateau de la Marine Nationale qui l'escorte, qui ouvre la voie. Tout à l'heure à 11h, au moment du lancement de cette parade nautique, il y avait également un bateau pompe des marins-pompiers qui a lancé ses jets d'eau. On a entendu également des cris, des sirènes, des cordes de brume et ça on pouvait pas y échapper. Allez l'OM qui ont été lancés depuis les bateaux suiveurs. Ça n'a pas déplu à deux des 16, il y a 16 jeunes qui ont embarqué à bord depuis Athènes, qui ont fait les 12 jours de traversée, qui ont été sélectionnés par la Caisse d'épargne. Et deux d'entre eux sont marseillais. Le maire de la ville leur a d'ailleurs confié un drapeau avant le départ. Et je peux vous dire qu'ils ont repris en cœur, évidemment, les Allez l'OM. Je vois le commandant là qui est pas très loin de moi, qui est en train de s'activer, de surveiller, parce que c'est lui évidemment assez périlleux. Le BLM sous bonne escorte. Je vous parlais du bateau de la Marine Nationale, mais il y a également une nuée de Zodiac, des forces d'intervention qui sont tout autour et qui empêchent, qui forment une sorte de cordon de sécurité autour de ce BLM. Et tout l'équipage, tous les jeunes, tous les marins professionnels également à bord, bien en hâte maintenant de se diriger vers le Vieux-Port que l'on aperçoit au loin. On voit la bonne mer au loin et on hâte de
arriver prévu à quelle heure, Julien?
Alors l'arrivée est prévue aux alentours de 19h, hein, l'entrée dans le Vieux-Port avec un tifo des South Winners, c'est le groupe principal des supporters de l'Olympique de Marseille qui a confectionné un immense tifo. Il y aura des fumigènes, il y a une grosse fête de prévue à ce moment-là aux alentours de 19h. La patrouille de France aussi qui va survoler tout ça avec les traditionnelles couleurs bleu, blanc, rouge, mais pas que. Il y aura une petite surprise avec les anneaux olympiques qui seront formés dans le ciel au-dessus du Vieux-Port jusqu'à ce que Florent Manodou vers 19h40 ne débarque avec la flamme olympique.
On a hâte de vivre ça. Merci Julien Richard qui est l'un des rares journalistes à pouvoir être en direct du Bélème, parce que je vous le rappelle que RMC est la radio officielle de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Joël, pardon, oui. Je te redonne la main pour ta question.
Non, Madame la Ministre, moi je suis comme vous, hein, j'ai grandi dans les quartiers dans le 93, donc en Ile-de-France, qui n'est pas un quartier très riche, notamment à Saint-Ouen qui est une plaque tournante du trafic de drogue, et je suis comme vous, la moitié de mes copains sur la photo de classe sont tous passés par la case prison. Maintenant, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est qu'on démantèle, on fait place nette XXL dans plein de quartiers, mais c'est quoi l'alternative? Quand vous avez enlevé les deals, les points de deal, qui d'ailleurs je pense vont revenir, mais bon, quand
non,
vous les avez enlevés.
Non mais
attendez, c'est quoi l'alternative quand on démantèle pas le chômage dans ces quartiers? Quand on démantèle pas aussi, j'ai envie de dire, l'absence de rêve, parce qu'il y a une sorte de désespoir. Qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui dans la politique du président de la République, dans la perspective qu'il nous donne? Qu'est-ce qui fait rêver? Qu'est-ce qui me fait croire que moi, mes jeunes frères, etc., peut-être ou des copains qui sont encore dans les quartiers, vont avoir une perspective dans ce pays. Je suis désolée, aujourd'hui, il y a vraiment une désespérance, il n'y a pas même un manque d'espérance dans la politique qui nous est proposée aujourd'hui. Alors moi, je veux bien qu'on démantèle plein de places net XXL, par contre, il faut une alternative.
Sabrina Agresti-Roubache.
J'oubliais juste, si vous me permettez, on est en France, hein, on vit en France à la 6e puissance mondiale, et honnêtement, il ne faut jamais avoir voyagé de sa vie pour ne pas se rendre compte dans quel pays on vit. Vraiment, tout n'est pas parfait. Vous venez d'un quartier, je viens d'un quartier. On a fait quoi toutes les deux?
Oui.
On a travaillé. D'accord. On s'est battu. D'accord. Jusqu'à maintenant, moi, on continue à me traiter. Enfin, vous voyez, on te ramène à ton origine sociale constamment. La réalité, c'est que, oui, faire un bon choix, c'est-à-dire le bon choix de la barrière, c'est plus dur que la moyenne. Oui. J'ai travaillé 20 fois, 30 fois, 40 000 fois, plus que les autres. D'accord. Et on continue à me faire des procès en incompétence, t'es pas assez ceci, t'as pas trop fait cela. Mais en attendant, la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut bien démarrer quelque part. Moi, je suis de celles qui dit, puisque je connais les quartiers, je viens de là. Je dis, oui, alors exploser les points de deal, c'est une bonne solution. Parce que quand tu rends le quartier aux gens, quand tu rends la rue aux gens, c'est déjà la première étape. La deuxième étape, on parle des rêves. À chacun son Himalaya, je l'ai dit 10 000 fois. La réalité aussi, c'est que il faut aussi prendre la main tendue quand on te l'attend. On est d'accord. Oui. On peut pas tout le temps expliquer que l'État est responsable de tout et que les libertés individuelles, justement, ne s'exerceraient pas et que pour le, moi, j'entends tout. Encore une fois, j'ai connu, par contre, si vous voulez parler d'une chose, j'ai connu des centres sociaux, c'est vrai, qui proposaient plein d'activités. Ouais. J'ai voyagé, j'ai fait, mais j'ai beaucoup travaillé. Il y a une chose que vous avez oubliée dans votre...
Donc, il faut savoir se prendre en main, c'est ce que vous dites aussi.
Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier le pays dans lequel on vit.
C'est vrai, mais
on vit dans un pays de liberté, Joël.
Je suis complètement d'accord, et je suis comme vous, on a beaucoup travaillé, on a eu la chance d'avoir des parents encadrants. Mais on ne veut pas une main tendue, on veut un système qui fonctionne. Et le système, il ne fonctionne pas.
Moi, j'y travaille.
L'ascenseur, il est cassé.
Comment ça marche.
Vous savez que même l'escalier, aujourd'hui, il commence, les marches commencent à se bouger une à une.
Vous avez raison.
Donc il nous faut,
l'école,
un système qui fonctionne.
Pourquoi je parle tout le temps de l'école? Parce que je pense que l'école, c'est important.
Oui,
c'est même primordial. Tu sais lire, écrire, compter, tu dois plus rien à personne, t'es autonome. Et vous savez, dans mon portefeuille de la citoyenneté, si vous le permettez, Alain, 30 secondes, j'ai l'accueil des réfugiés, les demandeurs d'asile, les naturalisations, la lutte contre la radicalisation, la prévention de la délinquance. Enfin, j'ai tous ces sujets, l'apprentissage du français. Qu'est-ce que je dis quand je mets sur le papier une politique publique d'accueil des réfugiés. Je veux qu'ils soient autonomes. Je veux qu'ils sachent parler français. Pourquoi? Pour qu'ils se prennent en main. Parce que personne ne vient dans notre pays pour profiter. On vient dans notre pays pour travailler, pour s'insérer et pour vivre dans un pays libre. Je crois qu'il manquait juste ça dans votre...
Didier Giraud.
Vous parlez beaucoup de la fracture sociale des quartiers. Moi, je viens d'un endroit où la fracture sociale, c'est pas les quartiers, c'est la désertification rurale. Et je trouve que le niveau de désespérance dans mes campagnes, elle est pas loin des jeunes de vos quartiers. Et alors,
c'est la même.
Je pense que il y a peut-être encore une différence autour de l'éducation et de la valeur du travail, mais je connais des paysans qui se posent la question de planter du cannabis, quoi.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont été sollicités par des mecs qui ont la casquette en travers de la ville d'à côté et qui du coup se disent aujourd'hui est-ce que je gagnerai pas plus. Et je pense que on est dans une société où il y a un modèle social qui a à reconstruire autour de la valeur travail, quoi.
Parce que quand le
rêve des gamins qui sont en CM2, et moi j'ai fait des interventions dans ces endroits-là, je peux vous le dire, c'est soit d'être footballeur professionnel, soit d'être influenceur.
Mais c'est pas que ça.
Ah ben écoutez, vous prenez une classe de CM2, il y en a 70% qui vous disent ça.
Oui, ben les 30%.
Des pompiers, des infirmiers, des agriculteurs, il y en a plus.
Je crie plus fort. Moi, le truc, c'est que il n'y a pas que ça. Franchement, réduire les jeunes des quartiers ou les jeunes en ruralité, rappelez-vous, je l'avais dit, je ne serai pas la ministre uniquement des quartiers prioritaires.
Non, mais je l'entends, ça.
J'ai dit, nos jeunes en ruralité souffrent autant que les gamins dans les quartiers. J'ai été la première à le dire. Et pourquoi ? Parce que ma mère, elle est née à Salon-de-Provence, elle vient de la ruralité. Elle est née au milieu des champs d'artichauts. Mais par contre, qu'on nous réduise, parce que moi, je me considère toujours comme une enfant des quartiers. Je suis restée ce que j'étais enfant. Je ne veux pas, je refuse. Et honnêtement, c'est probablement ce qui me révolte le plus. Qu'on nous réduise à... Alors, tu veux faire quoi ? Alors, si t'es une fille, tu veux faire quoi ? Esthéticienne ? Alors que c'est génial, esthéticienne. Mais non, moi, j'avais d'autres rêves. J'avais envie de faire des études. J'avais envie de travailler dans le cinéma. Mais qu'est-ce que ça m'a demandé ? Toujours la même chose, vous parlez de la valeur travail. Eh ben ouais, la valeur travail. Et je rappelle juste qu'on a créé 2 millions d'emplois et que le président, rappelez-vous, quand il a été élu en 2017, il avait dit sa priorité, c'était de lutter contre le chômage de masse.
Alors, Mehdi, rapidement.
Mehdi Guézard, la question de Mehdi dans un instant. Dans un instant, Mehdi Guézard, Didier Giraud, Joël Dagosséry, la secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté qui reste avec nous, Sabrina Agresti-Roubache, les GG en direct de la terrasse du Mucem ici à Marseille à l'occasion de l'arrivée de la flamme.
RMC, 9h midi, les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Oui, on est en direct de Marseille, ici de la terrasse du Mucem, pour accueillir la flamme olympique, pour vivre l'ambiance marseillaise. C'est un grand moment pour la cité phocéenne, grand moment pour tous les Marseillais. On en parle avec la Marseillaise du gouvernement, c'est Madame Sabrina Agresti-Roubache qui est avec nous, secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté. Elle répond de manière plutôt franche aux questions de Didier Giraud, Joël Dagosséry et de Mehdi Guézard. Mehdi, vas-y.
Madame la maire de Marseille, pas Madame la ministre, Madame la maire de Marseille, parce que nous sommes tous autour de la table que votre plan et votre feuille de route est déjà préparée.
Vous parlez du Marseille en grand, je suppose.
Je parle de vous en tant que futur maire de Marseille. Emmanuel Macron a dépensé énormément d'argent sur la ville de Marseille, à chaque fois, à dépenser. Parce qu'investi, on voit investi un retour sur investissement.
Et le retour sur investissement.
Laissez-moi juste finir ma question, madame la maire, ministre. Et à dépenser ou investi selon les rôles de chacun, pas mal d'argent sur la ville de Marseille, des milliards et des milliards à chaque visite qui vient. C'est milliards. Papa Noël qui arrive à Marseille et qui dépense et qui donne des budgets. Aucun souci, c'est normal, c'est la deuxième plus grande ville de France, c'est une ville exceptionnelle. Il faut le reconnaître, je ne suis pas pour son club, mais j'aime la ville. Il y a un problème.
C'est quoi ?
C'est que, malgré ça, l'immigration pose un problème, que le Rassemblement National est à 33% des intentions de vote, et qu'il ne cesse de croître. Donc, on a un énorme problème de dépenses, d'argent qui sont investis, selon vous, madame la maire ministre.
C'est pas selon moi.
Voilà. Mais en contrepartie...
C'est quoi le retour ?
L'extrême droite continue à progresser. Alors, on a un problème d'assimilation, d'insertion de l'immigration. Et on sait très bien que Marseille est assujetti justement à ce problème plus que d'autres villes par rapport à sa géographie. On le conçoit. Donc, madame la ministre...
Je préfère que vous vous adressiez à la ministre.
Alors, réponse.
Futur maire de Marseille.
Donc c'est l'échec, ça, votre
campagne. Non, pas du tout, pas du tout. Déjà, quand je vous parle d'investissement...
C'est pas un échec pour vous.
Non, mais si tout est échec, honnêtement,
non, mais je vous demande,
plateau, on rentre tous, on s'en va. Heureusement que non. C'est la première fois qu'un président de la République se penche sur le berceau d'une ville. C'est un plan, Marseille en grand, et j'ai honnêtement l'honneur, moi je parle même pas de la responsabilité, l'honneur de le porter. Un plan de sauvetage de la deuxième plus grande ville de France sur l'école. Vous pensez qu'on dépense dans l'école ? Moi, je dis, on investit dans l'école. 1 milliard. Un milliard sur les transports. Quand on désenclave.
Excusez-moi, madame la
ministre. Oui, mais arrêtez, juste de, mais arrêtez minutes, de regarder des, des reportages.
J'ai regardé énormément de reportages, excusez-moi, madame la ministre, avec tout mon respect, d'écoles dans certains quartiers de Marseille.
Mais elles méritent d'être rénovées, on est d'accord.
S'il y a eu de l'argent dépensé pour les écoles dans l'État, il faut se poser des questions sur les entrepreneurs qui ont fait les travaux.
Alors, Mehdi, peut-être.
Je vous le dis.
Alors, attends, réponse de la ministre. Mehdi, attends.
Parce que
des écoles qui n'ont pas de chauffage, qui ont des fuites d'eau.
Merci, c'est pour ça qu'on a fait le plan Marseille en grand.
Sabrina Gressy-Roubache répond.
Mehdi, alors, si vous avez une baguette magique et que vous savez me faire 188 écoles en un an et demi, donnez-moi votre baguette et je l'ai fait.
Excusez-moi, madame la ministre. Le premier plan d'Emmanuel Macron, c'est 2020.
Non, 2021. 2 septembre 2021. Non, vous êtes très mauvais en date, c'est 2 septembre 2021.
Je ne suis pas ministre. Hein.
Ouais, ça se voit.
Alors, c'est pas mon rôle. Allez-y, continue.
Donc, le 2 septembre 2021, première chose. Plan Marseille en grand, 188 écoles rénovées. L'État qui met 1 milliard d'euros sur le bâti scolaire, alors que le bâti scolaire, je vous le rappelle, c'est la commune, c'est le maire. Donc, une ville exceptionnellement aidée sur quelque chose que vous pointez, sur lequel vous avez raison, mais ne vous inquiétez pas, un enfant de Marseille, je l'avais vu avant vous.
Donc, 2 septembre 2021, on est en mai 2024,
ça fait 10 écoles livrées à la fin de l'année. C'est un plan qui ira jusqu'en 2032. Et si vous ne connaissez pas ce truc qui s'appelle juste avoir un peu de vision et les délais incompressibles de construction, il y a un truc que je ne comprends pas.
Aussi de rénovation, madame.
Oui, et là, combien ça prend de temps, la rénovation? On va détruire on va détruire la tour du B12, par exemple, dans le cadre de la rénovation urbaine, 650 millions d'euros investis sur Marseille sur 10 projets. Vous arrivez à détruire une barre de 20 étages en 3 jours? De quoi on parle?
Après, il a relié ça à l'immigration aussi. Le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut.
Très vrai. Alors,
Emmanuel
Macron
avait fait de la lutte contre le Rassemblement national un axe politique.
Il avait même dit qu'on n'aurait plus de raison de voter pour le Rassemblement national lorsqu'il a été réélu par rapport à ce qu'il faisait. Voilà. Aujourd'hui, Bardella est à 32%.
Alors, Bardella, 32%. Moi, si j'avais dû écouter tous ceux qui m'expliquaient que ma circonscription était perdue, je vous rappelle que j'ai battu le RN d'un peu moins de 700 voix. Alors, et on m'avait dit, non mais je me rappelle très bien, une fille qui s'appelle Sabrina Roubache, elle peut pas gagner dans un quartier bourgeois. Mais je vous dis ce que disent les gens, mais puisqu'on parle. Et la réalité, c'est que si j'avais dû écouter tout le monde, j'y serais pas allée. J'ai battu le RN, et moi je sais, en tout cas, puisque je les ai déjà battus une fois, on ne les bat pas en pleurant et en pleurnichant sur son sort. On se bat, on les bat en allant chercher les voix de partout où elles sont. Et moi, je crois à la politique du quotidien. Quand je suis arrivée au ministère de la Ville, j'ai fait une chose, j'ai pris une mesure toute simple. J'ai sorti une circulaire, les fameuses circulaires, et j'ai demandé au préfet de financer les petites associations. À 50%, je dis 50% de vos budgets sur les politiques de la ville, je veux que ça aille aux petites associations sur un financement de 3 ans. Pour ceux qui ont des associations, ils comprendront ce que je dis. Pourquoi ? Parce que je veux qu'on finance les petites associations en bas des immeubles et qu'on arrête de les enquiquiner avec de l'administratif, la suradministration qui nous a sauvés pendant le Covid. Parce que dans ce que vous dites, j'entends, vous avez oublié qu'on a eu la crise Covid. Vous oubliez quand même la guerre en Ukraine. Vous oubliez beaucoup de choses. Oui, enfin, bon. Vous faites comme si on était un pays à part, nulle part, et qui n'est concerné.
Vous n'avez pas répondu à la question sur l'immigration.
Alors, sur l'immigration, et là, je vais vous répondre, en plus, comme vous dites, on parle depuis Marseille. Je crois, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, parce que je savais à peu près où vous allez en venir. Je crois que, investir massivement sur l'apprentissage du français, sur les demandeurs d'asile, sur ceux qu'on voudrait régulariser, sur les métiers en tension. Oui, il faut avoir un certain niveau de français maintenant pour avoir ses papiers. Pourquoi ? Pas pour me faire plaisir, pour être autonome.
C'est logique.
Et la réalité, quand je dis, nous on est des enfants, moi je suis une enfant d'immigrés. Moi, mon père, quand il est arrivé en 67, il est arrivé pour travailler. Les gens viennent en France pour travailler.
Pas tous.
Merci Olivier, ceux qui viennent semer le désordre n'ont rien à faire chez nous, et je l'assume. Et c'est pas d'être d'extrême droite de le dire. Et quand j'entends,
par exemple, certaines députées LFI
qui viennent parler au nom des musulmans, j'ai fait un débat, moi, avant-hier, sur la laïcité, et ils se font les porte-drapeaux des musulmans.
Je suis d'accord avec vous en disant que c'est un scandale.
Absolument.
Que les musulmans se disent ou se
ils n'ont pas besoin.
Les LFI s'autoproclament comme représentants des musulmans, ce qui n'est pas.
Et dire qu'on aime la France, et dire qu'on défend son pays, et dire qu'on croit en ce qu'on fait.
Mais Sabrina
Gressy-Roubache,
que répondez-vous à tous ces Français dans tous les sondages, ça va dans le même sens, qui disent aujourd'hui il faut stopper l'immigration.
Je dis, il faut la contrôler. C'est pour ça que la loi immigration est passée au mois de décembre. Rappelez-vous les débats. Rappelez-vous même les fractures dans la majorité. La réalité, c'est que j'avais
écrit... Vous assumez cette
ligne de fermeté. Moi, je l'ai écrit dans mon livre qui est sorti en 2021, où je disais, les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Vous pensiez que j'expliquais quoi? J'expliquais quoi? Je disais que de les traiter de fachos,
c'est pas
ça, marche pas,
solution.
Les amis. Il va falloir leur parler autrement et les écouter. Écouter ce qui va pas. Pourquoi est-ce qu'ils se retournent vers l'extrême droite? Parce que le RN, c'est l'extrême droite. Hein. Moi, je vous invite à regarder le débat que j'ai été auditionné à l'Assemblée. C'est fameux. Où on explique que le voile égale islam politique et tout. Non, voile, il y en a juste. Et frères musulmans, non, il y en a qui mettent un voile, notamment dans ma famille. Enfin, c'est juste parce qu'ils sont croyants. Point. Et ce que je dis aussi, c'est que, à force d'avoir expliqué que on n'écoute pas ces gens-là, on dit non, il n'y a pas de problème d'immigration illégale, mais non, tout va bien. C'est pas vrai. Et regardez les générations d'immigrés, les premières, les deuxièmes, c'est probablement les plus sévères sur l'immigration illégale.
Et sur l'islamisme aussi.
Et sur l'islamisme. Merci de le dire parce que je l'avais écrit il y a longtemps, j'avais même produit des films à ce sujet. Donc, la réalité, c'est que je ne considère pas, moi, que tous les combats soient perdus. Les seuls combats qu'on perde, et je l'ai toujours assumé, c'est ceux qu'on mène pas. Moi, j'ai décidé de m'engager en politique uniquement pour ça. J'ai des convictions, j'ai des croyances.
L'échec.
Mais ça veut dire que concrètement, vous êtes pour une immigration choisie.
Non, je suis pour une immigration contrôlée. Pour une immigration où les gens ont envie de devenir français.
Comment on fait la différence entre la choisie et la subie pour un pays ?
Sur l'apprentissage du français, quand on demande, par exemple, quand on dit on va pouvoir régulariser des gens qui travaillent de manière illégale, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, je vous écoute moi aussi. Vous savez qu'il y a plein de gens qui travaillent de manière illégale, oui, notamment dans les métiers en tension, comme la restauration ou le bâtiment. Moi, je dis, je préfère qu'ils soient régularisés et les mettre dans un parcours d'intégration.
Et c'est dans trois ans.
Enfin, quand on est européen convaincu, on fait quoi aussi ?
Olivier, on prend
on fait
le temps.
Quoi, nous, qui subissons l'immigration pour aider les frontières extérieures de l'Europe on à exister fait, parce que les frontières de l'Europe, elles n'existent plus aujourd'hui, quoi.
Vous avez
à part en face de la Hongrie, quoi.
On a fait l'Europe.
Immigration qui va être.
Mais regardez, les Anglais qui sont sortis.
Ils nous font garder leurs frontières.
Non, ils nous ont donné 500 millions d'euros. Non, ils ont donné 500 millions d'euros à la France sur l'opération Sander, justement, pour contrôler mieux les frontières. Quand maintenant, dans le pacte immigration, on va pouvoir, au niveau de la frontière, enregistrer les demandes d'asile et non plus les laisser rentrer et après faire la demande d'asile. Pensez pas que c'est une avancée, c'est une manière aussi de contrôler.
Et vous serez où ce soir à l'arrivée du Belém
avec le président de la République, ouais, sur
bien placé alors pour.
Mais disons que la Marseillaise, elle a toujours un petit avantage sur les autres, je le reconnais.
Et est-ce que vous êtes. C'est ma question au du jour. Est-ce que vous êtes au courant de la star ou de la personnalité
Zizou
alors,
qui info, va qui va
vous lui voulez que
vous dise
alors,
c'est
ma mère Zizou. J'aimerais qu'on fasse une dédicace à ma mère.
Alors moi je voulais parler de Zina, voilà, parce qu'il faut ça, dire les coulisses, c'est que il y a une fan absolue des Grandes Gueules qui est à Marseille, qui s'appelle Zina. Il se trouve que c'est la maman c'est la maman de la ministre.
Vous savez ce que ça veut dire Zina? Vous savez ce que ça veut dire Zina en arabe?
Non.
Belle.
Voilà. Alors on l'embrasse et on dédicace cette émission. Elle vous a dit quoi, Zina? Elle vous a dit soyez sympa avec les gens.
Non, elle m'a dit sympa avec vous. J'ai dit non, je vais les massacrer. Bon, enfin, mais j'ai été très sympa.
Donc, est-ce que vous savez qui est la personnalité mystère ou pas?
Ah ben, alors, vous voulez que je vous dise, ça ne m'intéresse pas du tout. J'adore les surprises.
Non, mais vous le
pas
savez
du tout.
Ou pas?
Ah non, non, vraiment, je
donc c'est un secret bien gardé.
Personne ne le sait. Non, je ne l'ai même pas demandé.
Il n'y a que
moi en fait.
C'est vrai. Ah ben voilà.
Zizou.
C'est Zizou. Tu mets quoi sur la table?
1000 euros.
1000 euros sur Zizou.
Attention, on est à Marseille, on n'a qu'une parole.
Vous inquiétez pas.
Merci madame la ministre. Sabrina Grestier,
je crois qu'il va pas perdre.
Pour moi. Merci d'être passé voir les GG ici.
Merci à vous.
Et merci à toutes les équipes madame la maire, qui ont assuré pour cette émission.
Merci
au MUCEM.
Le est magnifique. Bonjour Rémi Barré, le débat va continuer en direct sur RMC, RMC Story avec Estelle Midi jusqu'à 15h.
Salut Alain, salut les grandes gueules, que de belles images là en direct de Marseille. Vous avez bien de la chance, nous on est à Paris et on va parler carburant notamment. Si vous avez fait le plein ces dernières heures sur l'autoroute, vous l'avez peut-être constaté, les prix explosent et on vous pose la question: carburant sur autoroute, faut-il plafonner les prix? On parlera également des commémoration du 8 mai. Est-ce qu'on manque de patriotisme dans notre pays? Et puis le succès du mobilhome. Est-ce que le vrai camping existe encore? Le vrai camping est-il mort? On vous pose la question, vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi.
Merci Rémi, bonne émission, bon débat. Qu'est-ce que vous laissez ? Pardon pour tous ceux qui sont passés devant les caméras, c'est le live, c'est comme ça. Nous sommes en direct, c'est la fête avec la flamme olympique et Oli. Et le Belém commence à approcher. Olivier et moi, on vous retrouve ce soir en direct sur BFM TV pour BFM Story. Nous serons à quelques minutes de l'arrivée du Belém et de la flamme. Vous vivrez ça avec nous, avec Olivier et moi. Bonne journée à l'écoute d'RMC. Le Super Moscato Show sera en direct de Marseille aussi tout à l'heure à 15h, n'oubliez pas.